France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le Conseil français du culte musulman va créer un Conseil national des imams à la demande d'Emmanuel Macron. Il sera chargé, ce conseil, de labelliser en quelque sorte les imams en France. Les dirigeants du CFCM en ont présenté les grandes lignes hier soir à l'Élysée et le chef de l'État leur a également demandé de rédiger une charte des valeurs républicaines d'ici 15 jours. Le Conseil français du culte musulman et ses fédérations devront s'engager sur ce texte. Un contrat sera conclu dans quelques jours entre l'Union européenne et le laboratoire américain Moderna. Le secrétaire d'État français aux affaires européennes l'assure, il est question de l'achat de 80 millions de doses de ce vaccin anti-Covid. Un vaccin annoncé efficace à 94%. Pour le moment, la Commission européenne a déjà signé 5 contrats de précommande avec plusieurs laboratoires. La crise sanitaire, le Covid-19 et l'attente d'un confinement plus souple en France. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français la semaine prochaine. Cela devrait être une adaptation du confinement dans un premier temps, à partir du 1er décembre. Et pour soutenir les commerçants fermés, le ministre de l'économie Bruno Le Maire demande à la distribution de décaler le Black Friday. Cette journée de prix cassé est prévue dans une semaine, le 27 novembre. À chaque fois qu'un ministre parle, cela va dans un sens différent, regrette quand même le directeur général de l'Alliance du Commerce. Pendant ce temps, l'examen de la proposition de loi sur la sécurité globale se poursuit toujours à l'Assemblée nationale. Sachez qu'hier soir, Gérald Darmanin a écarté l'hypothèse d'un armement obligatoire des policiers municipaux. Une proposition qui n'avait pas été retenue par la majorité. Et puis au niveau européen, la Slovénie se déclare solidaire de la Hongrie et de la Pologne qui s'opposent au budget européen. Budapest et Varsovie avaient mis leur veto pour s'opposer au respect de l'état de droit pour pouvoir ensuite toucher des aides européennes. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban réclame des critères objectifs, dit-il, pour appliquer ce mécanisme d'aide.
Après-guerre, mai 68, crise pétrolière, effondrement bancaire de 2008, alors que nous vivons confinés en pleine crise économique et sanitaire, LSD tend l'oreille aux archives pour voir à quoi ressemblaient les lendemains de crise.
Sur France Culture, le documentaire se déploie en grand format. Perrine Kervran.
Et surtout, pour mieux imaginer les nôtres quand ce sera enfin le moment.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Confinée avec Simone de Beauvoir.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
La femme mariée est-elle devenue libre ? Comment Simone de Beauvoir a-t-elle influencé le travail de ses amis philosophes et réciproquement ? Y a-t-il un destin biologique du corps féminin ? Et enfin, de l'amour nécessaire pour Sartre aux multiples amours contingentes, comment concilier travail intellectuel et passion du cœur ?
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture, c'est l'heure du monde vivant. Et ce matin, Bruno David s'intéresse à ce qui est ni une plante, ni un animal, ni un champignon.
Je vous invite à vous plonger quelques instants dans un film d'horreur de 1958, Danger planétaire dans sa version française. Steve, le regard horrifié, lance l'alerte, les policiers restent sceptiques. Une créature informe, rampante, énorme, indestructible vient d'arriver sur Terre avec une météorite. Elle s'immisce, se faufile et dévore tout sur son passage, augmentant progressivement de taille jusqu'à semer la panique en ville. Ce film, qui nous paraît un peu naïf aujourd'hui, initia pourtant la carrière de Steve McQueen. Il faut dire qu'il y combat avec succès cette créature immonde, dénommée Blob, pour les besoins du film. Le scénariste ne se doutait pas du succès que ce nom allait rencontrer, car la créature existe. Enfin, pas tout à fait quand même, car le blob du naturaliste est bien inoffensif. Le blob des biologistes se nomme Physarum polycéphalum, nom d'espèce qui signifie qu'il a plusieurs têtes, ce qui est assez cocasse car il n'en a aucune. Physarum polycéphalum est un discret habitant de nos forêts. Dans le sous-bois humide, sur le tapis de feuilles mortes ou de bois morts, il se nourrit de bactéries, de levures, de champignons, de spores, d'autres organismes. Extérieurement, il ressemble à un champignon. Attention, pas de ceux dont on se régale, non, plutôt de ceux que l'on va trouver sous une vieille planche posée sur un sol humide, ceux qui ont l'apparence d'un réseau de filaments blanchâtres ou jaunâtres. D'ailleurs, le blob est connu depuis fort longtemps et il a été décrit dès 1822. À l'époque, il a tout naturellement été classé dans les champignons car il produit des spores. Seulement voilà, rien n'est simple en biologie. Les champignons n'ont pas le monopole de la production de spores. Et puis le blob est unicellulaire, mais une cellule qui héberge de nombreux noyaux, 1, puis 2, puis 4, au fur et à mesure de sa croissance. On a fini par traiter le blob en nini, ni un animal, ni une plante, ni un champignon. On le caractérisait négativement, comme si la science n'avait pas été capable de dire ce qui lui était spécifique. Heureusement, la génétique moléculaire arrive dans les années 90. Elle nous dit que le blob est un myxomycète, terme qui signifie champignon gluant. Pas très malin puisqu'il n'est pas un champignon. Les myxomycètes sont rangés dans les amébozoaires, autrement dit, il est un cousin des amibes. Mais un cousin géant. En effet, les myxomycètes peuvent devenir très grands alors que les amibes sont toujours minuscules. Le blob est proche des amibes parce qu'il émet des pseudopodes, petites excroissances qui lui servent à se déplacer. Et puis il se nourrit par phagocytose, c'est-à-dire qu'il encercle sa nourriture de sa membrane pour la digérer une fois englobée. On voit d'où le film a tiré son inspiration d'un monstre avalant tout. Ouf, le blob est enfin classé pour lui-même. Restait une question. Qui pour prendre soin du blob, star du parc zoologique de Paris? Des soigneurs animaliers ou des jardiniers? Il a fallu innover, car c'était notre premier myxomycète. Finalement, ce sont les jardiniers qui ont décroché le blob.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, tous les jours de la semaine, tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast ou l'écoute en différé, disponible sur l'application Radio France ou en quelques clics à partir de franceculture.fr. Tous les jeudis, c'est l'actualité de la pop musique et aujourd'hui mon invité est Gaël Faye à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Lundi Méchant. 14 nouvelles chansons entre slam et berceuse, dans une pop élégante qui pulse avec les meilleures musiques du monde et des textes poétiques, vibrants, comme des échos de nos vies silencieuses et de nos drames contemporains.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Même au fin fond de mon petit pays, je regardais ma lucarne. Les convulsions du monde nous parvenaient comme un lointain vacarme. Souvent la télé se partageait avec l'ensemble du voisinage. La mondovision canapé transforme le globe en un village. Les fractions de l'imaginaire partageons tous la même doxa. Roger Mila en coupe du monde et le monde danse le Makossa. La guerre du golfe de Mr. Bush avant fiston y avait papa. Et je m'attais le pillage des pipelines en bouffant mes papayes. Nous étions tous ces mêmes gamins rêvant d'entrer dans la Dream Team. Malgré l'arceau dans mon jardin, j'ai jamais vu Patrick Ewing. Je me suis accroché à des rêves, souvent très loin de mon quotidien. Je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien. On pensait tenir aucun rôle dans le programme de leur feuilleton. Mais un jour en Gaule, à la Baule, il y a eu le discours de tonton. Démocratie, multipartisme, fallait ranger les pistolets. Comme rien n'est simple, la guerre a éclaté, j'ai éteint ma télé. C'est cool, ma jeunesse c'est cool. Entre un mur qui tombe et deux tours qui s'écroulent. Ah ouais c'est cool, ma jeunesse c'est cool. Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis en charentaise à se demander, c'est quoi la télé? C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert? L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Quand le drame est bien trop grand, elle se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'un million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence, dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo. Pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Le battement du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de rimes. C'est cool, ma jeunesse c'est cool. Entre un mur qui tombe et deux tours qui s'écroulent, ah ouais c'est cool.
Bonjour Gaël Faye.
Bonjour.
C'est cool, ma jeunesse est cool. Entre un mur qui tombe et deux tours qui s'écroulent. Dans cette chanson, donc extraite de votre dernier album, dans cette chanson très personnelle, vous faites l'inventaire de ce que fut votre jeunesse. Vous qui êtes né au Burundi, d'un père français et d'une mère rwandaise, votre jeunesse, c'est fuir une guerre civile, un génocide, pour arriver à Versailles. Vous racontez votre jeunesse, et en racontant votre jeunesse, c'est notre époque que vous décrivez avec les mots.
Oui, c'est vrai que cette chanson, elle parle de mon rapport à la télévision. Lorsque j'étais à Bujumbura, enfant, où la télé était un objet collectif, on regardait la télé entre voisins, et dans cette télé, on nous parlait du monde, mais on ne parlait jamais de nous, c'est-à-dire nous, les habitants d'une petite région d'Afrique entourée de grands lacs. Et puis un jour, nous sommes devenus les sujets des JT et de l'information mondiale, et on n'avait plus le temps de regarder la télé, on devait essayer de survivre. Et puis lorsque je suis arrivé en France à nouveau, je me suis retrouvé dans un appartement, sur un canapé, et j'étais à nouveau un spectateur, mais un spectateur isolé. Il n'y avait plus ce voisinage, il n'y avait plus cet entourage. La télé, l'écran n'était plus quelque chose que je partageais. C'était un écran que je regardais tout seul, et je voyais les autres se débattre sur d'autres terrains de survie.
Vous avez le don de parler de choses très graves, mais avec des musiques très douces.
Alors, c'est peut-être aussi lié à la culture dans laquelle j'ai grandi. Il y a au Burundi, au Rwanda, on apprend aux gens, aux enfants, à être stoïques. Il y a une culture de la retenue. On apprend aux gens à ne pas parler fort. Mais en même temps, nous venons de régions qui sont très violentes. Et donc, il y a peut-être ce paradoxe.
Mais Gaël Faye, après le phénoménal succès de votre premier roman, Petit Pays, publié chez Grasset en 2016, primé par le Goncourt des lycéens, vendu à plus d'un million d'exemplaires et traduit en plusieurs langues, avant d'être adapté d'ailleurs au cinéma par Éric Barbier, on vous guettait plutôt dans les sorties de livres, dans les rayons de livres, et voilà que vous revenez à vos premiers amours, c'est-à-dire la musique, vous qui avez connu un succès plutôt d'estime, on peut le dire, dans le rap il y a 10 ans, avec votre groupe Milk Coffee and Sugar et votre premier album solo Pili Pili sur un croissant au beurre. Pourquoi ce retour à la musique que représente pour vous le rap, Gaël Faye?
Mais j'ai jamais laissé de côté la musique, même une fois que j'ai sorti mon roman en 2016. Quelques mois après, je sortais un EP qui s'appelait Rythme Botanique. L'année d'après, je sortais un autre EP qui s'appelait Des Fleurs. Le succès fulgurant de Petit Pays m'a laissé très peu de temps pour pouvoir travailler sur un album. Et donc, effectivement, il m'a fallu des mois pour, voire des années pour pouvoir produire cet album, Lundi Méchant. Alors, la différence avec l'écriture d'un roman, c'est que j'ai besoin de personne pour écrire un roman. Je suis moi, une feuille blanche et un stylo, une table. Et peu importe où je suis, alors que la musique, ça demande la musique comme je la conçois, bien sûr, ça me demande d'être entouré, très bien entouré. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi sur scène. Je suis avec des musiciens, j'ai un tourneur, j'ai des ingénieurs du son, des ingénieurs lumière, j'ai des managers, j'ai une maison de disques, je fais des clips. Donc c'est autre chose, la musique. Ça, lorsqu'on termine un album, on n'a pas fini l'album, c'est-à-dire il y a on a écrit une chanson, et puis ensuite il faut les mixer, ensuite il faut sortir l'album, il y a des clips, il y a des tournées, et c'est peut-être au bout une fois qu'on a fait plusieurs concerts qu'on a l'impression ça y est, on a vécu l'album, alors qu'un roman, finalement, une fois qu'on a terminé son fichier Word, ça y est, il est déjà plus à nous, on a plus rien à faire. Donc c'est aussi une histoire d'énergie, et je pense que l'écriture, le métier d'artiste, c'est surtout une histoire d'énergie. À quel endroit on a envie de mettre son énergie. Moi, j'ai vécu quelque chose de fabuleux avec Petit Pays, et j'ai envie de revenir au roman, mais de façon avec suffisamment de recul sur ce qui m'est arrivé. Et pas sortir un roman parce qu'il faudrait sortir un roman et surfer sur sur un succès. J'ai envie d'y revenir parce que j'ai une nécessité d'écriture.
Comment vous écrivez vos chansons cette fois-ci, c'est-à-dire Gaël Faye, comment vous mettez les mots en musique, à moins que ce soit le contraire, comment l'inspiration poétique vient au musicien que vous êtes? C'est-à-dire au départ, c'est la musique ou c'est les mots qui vous inspirent pour les chansons?
Pendant très longtemps, c'était les mots. J'écrivais d'abord les textes et ensuite j'essayais de trouver des compositions musicales qui puissent porter les textes. Et là, j'ai eu une difficulté, je dois l'avouer, lorsque je me suis mis à travailler sur cet album. Je pense que c'était lié aussi à la vie que je menais, le roman qui était traduit dans énormément de langues. Je faisais beaucoup de voyages, donc j'avais très peu le temps finalement d'interroger mes silences, donc de savoir véritablement ce que j'avais envie de raconter. J'avais bien sûr pas du tout envie de raconter ma fatigue et mes voyages d'écrivain itinérant. Et donc j'ai tenté une technique que je n'avais jamais essayée, c'est vraiment la technique des chanteurs, c'est-à-dire commencer par la musique, y apposer des yaourts, des mélodies, comme on dirait en rap, des top lines, et à partir de là, essayer de trouver des mots. Donc il y avait des mots qui venaient comme ça, comme un mot chaloupé, c'est un mot qui me fait rire depuis des années, donc je sentais qu'il y avait une chanson que j'avais envie d'appeler comme ça, mais j'avais pas de texte, et c'est la mélodie qui est venue avant les mots.
Mais peut-être qu'il y avait des envies de thèmes, de sujets, d'envie de parler du monde d'aujourd'hui, Gaël Faye, dans cet album, ou pas?
Ah oui, complètement. Ouais. C'est de toute façon, j'ai du mal à ne pas parler du monde tel qu'il va, parce que, alors là, je pense que c'est aussi lié à la pratique de l'écriture, mais lorsque j'écris, j'ai envie d'avoir une forme d'utilité de pour moi d'abord, bien sûr, pour essayer de comprendre plus ou moins le monde dans lequel je suis, en tout cas le ressenti que j'ai par rapport à ce monde, et puis pourquoi pas aussi aider des gens qui m'écouteraient à trouver des réponses dans des mots, ou en tout cas à permettre d'éclaircir un petit peu la situation. Donc je suis très attentif au monde autour de moi lorsque j'écris un album.
France Culture, le réveil culturel, Toufik Hakem.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Michel grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassinent, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Respire, extrait de votre dernier album, Lundi Méchant, Gaël Faye. Et cette chanson a été écrite avant la pandémie, avant tout ce qui nous arrive, je suppose.
Oui, oui, tout
mais,
à fait.
Mais alors franchement, elle sonne d'une manière complètement différente maintenant.
Oui, c'est vrai. Parfois l'actualité, enfin les chansons rattrapent l'actualité. C'est... Ouais, c'est troublant.
Comment on trouve les mots justes, les formules heureuses? Vous qui êtes vraiment un spécialiste, hein, je veux dire que vous l'avez dit au début, Gaël Faye, vous avez eu le Covid le printemps dernier, et je me souviens que vous étiez un des premiers à témoigner de cette maladie, et vous avez trouvé la bonne formule en disant, en postant, je crois, sur les réseaux sociaux, et en décrivant vos problèmes respiratoires, vous avez écrit « C'est comme si j'avais de la colle dans les poumons et des hauts fourneaux en activité dans la cage thoracique. »
Oui, c'est vrai, et c'est étonnant parce que c'est comme si c'était une émotion qui restait en moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je repense à cette maladie, d'un coup, je sens comme une chaleur monter dans mes poumons. C'était très impressionnant. J'ai eu peur, c'est rare quand même que j'ai peur lorsque je suis malade. Enfin, en même temps, j'ai jamais été aussi malade, à part peut-être le paludisme. C'était presque une c'est pas pour faire mon poète, mais c'était presque métaphysique comme maladie pour moi à ce moment-là, parce que j'étais lancé dans la sortie du film, j'étais en train de faire des concerts, je voyageais beaucoup, je rencontrais beaucoup de monde, et tout s'est arrêté, et j'avais cette chaleur et cette incapacité de respirer, et tout autour, et le monde entier avait cessé de fonctionner, et j'étais dans une chambre tout seul à l'isolement pendant 15 jours, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et donc je garde un souvenir très étrange, quasi métaphysique, oui, de ce moment.
Il y a du spleen, beaucoup, hein, dans Lundi méchant, mais il y a aussi des chansons d'amour, des chants d'espoir, quelques pointes d'humour, et puis surtout des rencontres heureuses et prestigieuses, comme si vous réalisiez avec cet album votre rêve d'enfant, c'est-à-dire, pour citer ces rencontres, Harry Belafonte et Christiane Taubira sont les invités, d'une manière ou d'une autre, sont les invités de votre album.
Oui, j'avais envie que ce soit un album politique, mais pas politique au sens point levé, écrire des textes rageurs ou revendicatifs. En tout cas, pas sur cet album-là. J'avais cette envie-là et je me disais le meilleur moyen, c'était qu'il y ait cette énergie-là politique, à savoir des rencontres qui me permettent d'être dans cet état d'esprit, d'avoir envie de faire évoluer les choses, d'avoir un état d'esprit optimiste, combatif et joyeux. Et ça, c'est forcément, quand je pense à ce type d'état d'esprit, je pense à Harry Belafonte, que j'écoute depuis que je suis gamin, surtout son album avec Myriam Makeba qu'on écoutait à la maison quand j'étais petit. Et puis, bien sûr, Christiane Taubira qui pour moi est une grande source d'inspiration, qui est une personne qui donne de la hauteur à la parole politique.
Et vous avez donc mis en musique, vous avez même interprété un texte de Christiane Taubira qui est plutôt un manifeste.
Moi, je ne l'ai pas ressenti comme un manifeste, j'ai ressenti ça comme un poème qui avait pour ambition peut-être de figer les intolérants et les racistes là où ils sont, de façon à ce que le monde continue sans eux, et c'est presque un pied de nez. À mon avis, c'est la réponse qu'elle n'a pas pu faire au moment où elle a été attaquée pour le mariage lors de la loi du mariage pour tous, et c'est une réponse peut-être qu'elle aurait pu faire à ce moment-là. Avec hauteur et dignité.
Seul et vaincu, c'est le titre, bien sûr, du morceau. On écoute juste un extrait.
Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugle aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. vous finirez seuls et vaincus. Car longue, longue est la mémoire des pieds, des peaux, des au revoir et de ces temps itinérants où, devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos. Autorité en toc et broc ne sauront vous sauver de rien. L'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en dedans.
Seul et vaincu, donc, sur un texte de Christiane Taubira que vous interprétez, Gaëlle Faye. Avant de nous quitter, je voulais prendre un peu de vos nouvelles. Comment vous vivez cette drôle d'époque avec ces privations qui veut dire pour vous pas de scène, ou du moins pas de scène pour les deux mois qui viennent?
Oui, c'est assez irréel, finalement. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, forcément, comme pour beaucoup de monde, mais sortir un album et pas pouvoir monter sur scène, c'est presque aberrant, parce que je pense que la plupart des musiciens, des chanteurs font des chansons parce que c'est un prétexte à la scène, à la rencontre. Et donc là, j'essaye de trouver la justification de mon art d'une autre façon, en me disant que c'est un moment difficile pour beaucoup de monde et que peut-être l'art, la musique, dans ces temps troublés, va permettre un peu de réconfort aux uns et aux autres. Donc c'est comme ça que j'essaye d'imaginer que mes chansons voyagent vers les gens. Alors j'espère que rapidement on pourra remonter sur scène pour être sûr que la musique a encore un rôle à jouer, à savoir qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse revivre ensemble, qu'on puisse recréer du lien, parce que c'est vrai que là c'est irréel et un peu absurde.
Ça s'appelle Lundi Méchant, votre dernier album, Gaëlle Faye. Ça veut dire quoi, Lundi Méchant?
Lundi Méchant, c'est le nom qu'on donne à des soirées qui ont lieu à Bujumbura, donc la capitale du Burundi, le lundi soir. Les gens sortent de minuit jusqu'à l'aube pour faire la fête, et au-delà de ça, c'est pour faire un pied de nez à la société qui voudrait que on attend le week-end, on attend le samedi et le dimanche pour faire la fête. Là, les gens sortent en début de semaine en disant « ce temps-là, il est aussi à moi, j'ai le droit de décider ». C'est pas des virus ou des guerres qui imposent leur agenda aux Bujumbourois et Bujumbouroises.
Bon, ça vous manque tout ça, on dirait, Gaëlle Faye?
Complètement, oui.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas voyagé?
Ça fait depuis mars. En mois de mars, j'étais au Rwanda pour présenter donc le film Petit Pays. Et puis ensuite, le monde s'est mis à l'arrêt.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Gaëlle Faye. Je rappelle que votre disque est bien sûr disponible sur les plateformes musicales Lundi Méchant. À bientôt, Andy.
Merci, à bientôt.
Comme un lundi.
Corinne Amar à la coordination, Laurie Vachon à la prise de son et Vincent Bouchard à la réalisation se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve demain à la même heure.
Et chaque semaine, on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux.
Comme un lundi.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
La réalité est-elle définie par la personne qui l'observe?
Sur France Culture, la méthode scientifique de Nicolas Martin.
Est-ce l'observateur qui fixe le réel? On poursuit cette semaine notre passionnante conversation sur la physique quantique. On reparlera aussi longuement de la stratégie vaccinale contre le Covid des différents laboratoires et de la guerre de communication qui est en train de se jouer. Il sera aussi question des oiseaux marins, de la fonction exponentielle et, comme chaque jour, de toute l'actualité scientifique méthodiquement.
La méthode scientifique du lundi au vendredi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Secteur très affecté par la crise du Covid-19, le plan de relance a pourtant consacré 2 milliards d'euros à la culture.
Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Mais les théâtres, les cinémas, les librairies, les musées et les salles de concert sont toujours fermées. Comment construire une politique culturelle qui préserve les métiers en attendant une reprise? Comment penser l'avenir pour la culture? Ce sont des questions que nous poserons dans le temps du débat à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.
Le temps du débat, ce jeudi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Vallourec annonce la suppression de plus d'un millier de postes dans le monde, dont 350 en France. Le producteur de tubes sans soudure en acier veut ainsi renforcer sa productivité. Il fermera totalement l'usine normande de Diéville-les-Rouen. Réaction du maire de la commune dans un instant. Nous reviendrons ensuite sur le contenu de la proposition de loi sur la sécurité globale. Elle s'attache surtout à augmenter les compétences des policiers municipaux, vous le comprendrez. Proposition de loi débattue en ce moment à l'Assemblée. Et puis zoom sur une enquête britannique longue de 46 ans. Un homme a été arrêté hier pour les attentats de 1974 contre des pubs à Birmingham. Et l'on commence donc par ce coup de massue. Vallourec a annoncé hier la fermeture de son usine de Diéville-les-Rouen. Le site est spécialisé dans le traitement thermique de tubes en acier. Il emploie environ 200 personnes. La suppression de ce site s'inscrit dans un plan de suppression de postes plus global à travers le monde chez Vallourec, qui subit le plongeon de la demande de ses clients pétroliers. Mais localement, en Seine-Maritime, c'est un choc pour toute l'industrie du territoire. Le président du département a annoncé écrire une lettre au Premier ministre quand le maire de Diéville-les-Rouen parle d'un drame, Dominique Gambier.
C'est effectivement dramatique, d'abord pour les salariés. Il y a 200 salariés qui vont se retrouver dans une situation dont on ne sait pas ce qu'elle va être. Il faut maintenant qu'on s'en occupe sérieusement. C'est dramatique pour notre métropole qui perd évidemment un de ses fleurons industriels. Et puis pour notre commune, le site a tellement marqué le paysage de notre commune depuis plus de 2 siècles. Donc tout cela fait que c'est un mauvais coup qui est porté aujourd'hui pour nous. La situation de Vallourec est mauvaise depuis maintenant plusieurs années. Il y a eu la fermeture du laminoir en 2016 qui était pour nous un signe redoutable. Plusieurs scénarios étaient possibles, 50 salariés, plus une fermeture partielle. Enfin bon, là c'est la fermeture du site, c'est la totale comme on dit.
C'était le maire de Déville. Les Rouen, interrogé par Théophile Pedrola de France Bleu Normandie. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, écarte l'hypothèse d'un armement obligatoire pour les policiers municipaux. La proposition venait d'un rapport des députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, mais elle n'avait pas été retenue dans la proposition de loi controversée sur la sécurité globale, proposition de loi qui est en ce moment à l'Assemblée nationale. Nous n'imposerons pas l'armement des policiers municipaux aux collectivités locales, a déclaré le ministre de l'Intérieur hier. Les discussions se poursuivent donc autour de cette loi, 32 articles au total, plus d'un millier d'amendements. On a beaucoup parlé déjà de l'article 24 qui veut encadrer la diffusion malveillante d'images permettant l'identification de policiers ou de gendarmes, mais le texte prévoit aussi et surtout d'élargir les compétences des polices municipales sans les armer, Pierre Neveu.
Le texte ouvre plus largement les champs d'intervention des polices municipales en leur donnant par exemple la possibilité de contrôler les permis de conduire et assurances, d'avoir accès aux fichiers des véhicules volés, comme ils seront habilités à intervenir dans les squats de halls d'immeubles ou pour une occupation illégale de terrain communal. En prévision de l'organisation de grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, le texte prévoit de mieux encadrer les entreprises de sécurité privée et leurs agents qui seront amenés à réaliser des missions de surveillance sur la voie publique. Leur activité sera plus strictement encadrée. Le secteur emploie aujourd'hui 170 000 personnes. C'est plus que la police nationale et ses 150 000 fonctionnaires. Par ailleurs, le texte modifie le cadre juridique des caméras individuelles qui équipent les policiers et gendarmes. Ils pourront transmettre leurs images en temps réel si leur sécurité est menacée. Quant aux drones, ils pourront être utilisés pour établir l'ordre lors de manifestations. lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public.
Pierre Neveu pour France Culture. Le gouvernement ne veut pas parler de déconfinement, mais d'adaptation au confinement. Entendez par là un assouplissement des règles à partir du 1er décembre, assouplissement progressif. Emmanuel Macron s'exprimera à ce propos la semaine prochaine. Pour ce qui est d'éventuels vaccins, la course se poursuit. L'américain Pfizer veut écouler 500 millions de doses d'ici la fin de l'année et doit demander une autorisation de mise sur le marché d'ici quelques jours à la FDA américaine qui s'occupe des médicaments outre-Atlantique. Pour ce qui est de la France qui sera forcément intéressée pour lutter contre le Covid-19 et pour avoir ce vaccin, les autorisations se jouent au niveau européen, Véronique Julia.
Pour tous les médicaments innovants, comme un nouveau vaccin, c'est au niveau européen que ça se passe. La procédure est gérée et coordonnée par l'Agence européenne du médicament. Chaque État membre y est représenté. Quand un dossier arrive, deux États sont désignés pour l'évaluer et dresser un rapport qu'ils soumettent aux autres États. Leur avis est ensuite transmis à la Commission européenne et c'est elle qui décide d'accorder ou pas la mise sur le marché. En temps normal, le laboratoire soumet son dossier complet en une seule fois. Avec le Covid, la procédure est différente pour accélérer une possible autorisation. L'Agence européenne du médicament évalue les dossiers en continu. Les laboratoires lui transmettent leurs données disponibles au fur et à mesure. À ce jour, trois vaccins sont en cours d'évaluation. Le Pfizer, le Moderna et celui développé par AstraZeneca. L'agence analyse la sécurité et l'efficacité du produit. En cas de feu vert de la Commission, l'autorisation vaudra pour tous les États membres. Pour les vaccins, comme pour tous les médicaments dérivés du sang, les lots qui seront ensuite fabriqués seront tous dûment contrôlés. La NSM, l'agence française du médicament sera chargée ensuite de toute la pharmacovigilance, c'est-à-dire la surveillance d'éventuels effets indésirables chez les patients français.
J'ajoute au niveau européen encore que l'Union compte acheter 80 millions de doses du vaccin de l'américain Moderna, efficace a priori à 94%. Ce contrat sera conclu dans quelques jours. Je vous rappelle qu'au niveau du budget européen maintenant, les discussions sont toujours bloquées après le veto polonais et hongrois. Un Conseil européen se réunit aujourd'hui. C'est une arrestation attendue depuis 46 ans qui a eu lieu hier. En 1974, deux bombes explosaient dans des pubs de Birmingham au Royaume-Uni. 21 personnes étaient mortes, plus de 200 autres blessées. Un attentat signé par l'armée républicaine irlandaise, alors en pleine guerre avec l'Angleterre. Et hier donc, un homme de 65 ans a été interpellé à Belfast, en Irlande du Nord, dans cette enquête au long cours, Richard Place.
Plus qu'une affaire judiciaire, c'est une partie de l'histoire du royaume, un volet sombre. Un attentat meurtrier et une enquête bâclée, trop pressée de donner des noms à un peuple en colère. La police avait produit de faux témoignages et extorqué des aveux par la violence, ce qui avait conduit à l'une des pires erreurs de la justice britannique, 6 hommes emprisonnés à tort pendant 16 ans. Les 6 de Birmingham, blanchis et libérés en 1991. Le film Au nom du père racontera leur combat contre une administration aveuglée par son besoin de vengeance. Les familles de victimes ont milité pendant toutes ces années pour connaître la vérité et finissent par obtenir la réouverture de l'enquête il y a 4 ans seulement. Jusqu'ici, les autorités s'étaient contentées de désigner l'IRA comme responsable sans aller plus loin. Il a fallu attendre le mois dernier pour que la ministre de l'Intérieur s'engage fermement à faire la lumière, ce qui aujourd'hui conduit à une arrestation. Après-demain, ce sera le 46e anniversaire de ce double attentat.
Richard Place depuis Londres pour France Culture. Près de 12 millions de chômeurs aux États-Unis ne toucheront plus aucune aide au lendemain de Noël. À cette date, les allocations de soutien mises en place au printemps pour faire face à la pandémie de Covid-19 s'arrêteront soudainement. C'est un groupe de réflexion démocrate qui alerte ce matin sur le sujet. Eux travaillent en ce moment chez Facebook et ils montent au créneau contre leur entreprise. Des dizaines de modérateurs qui filtrent les contenus publiés sur le réseau social s'estiment sacrifiés, obligés de revenir travailler dans leur bureau malgré la crise sanitaire. Leur lettre adressée aux dirigeants de Facebook est accablante. Restons aux États-Unis où les résultats du recomptage des bulletins pour la présidentielle dans l'État de Géorgie seront connus aujourd'hui. Cela donnera donc ou non un peu plus d'avance à Joe Biden qui est, selon les résultats globaux, assuré d'entrer à la Maison-Blanche en janvier prochain. Mais le président sortant Donald Trump refuse toujours de l'admettre. Et après Fox News, Donald Trump a trouvé une nouvelle chaîne de télévision pour voler à son secours, Grégory Phillips.
OAN est désormais la chaîne de télévision préférée du président sortant. One American Network a été créée en 2013 par un milliardaire californien et Donald Trump en est devenu ces dernières semaines le meilleur promoteur, appelant ses supporters à délaisser Fox News pour cette chaîne hier confidentielle et qui, 16 jours après l'élection, continue d'affirmer que Joe Biden n'a pas gagné.
As we believe President Trump, as you can see, still has a chance of winning.
Devant la Maison Blanche, on croise Maureen, casquette Make America Great Again sur la tête. Hier, fan de Fox, aujourd'hui branché sur OAN.
Fox News est trop influencé par les autres médias. Il faut qu'ils se libèrent de ça et qu'ils disent la vérité à la nation.
This is not over and we can win. Hello everybody and welcome to Newsmax.
Le réseau Newsmax est sur la même ligne. Élection trop serrée. On ne peut pas donner de résultats. La semaine passée, pour la première fois de son histoire, la petite chaîne ultra-conservatrice a franchi la barre du million de téléspectateurs. Trump, lui, ne décolère pas, accusant sur Twitter Fox News de ne pas l'avoir assez soutenu et d'avoir de manière prématurée annoncé sa défaite, notamment en Arizona. Le président sortant, qui a aussi pour projet de créer sa propre chaîne de télévision, une fois qu'il aura quitté la Maison Blanche, le nom de Trump TV a déjà été déposé.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Les averses traversent toujours le pays d'ouest en est ce jeudi, laissant derrière elles un beau soleil entre 8 et 11 degrés ce matin sur la moitié nord du pays, 10 à 17 au sud. À 6h40 sur France Culture, c'est l'heure de votre journal des idées. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Ce deuxième confinement, Jacques, affecte davantage que le précédent la santé mentale des Français. C'est le constat du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.
Oui, et vous le disiez d'ailleurs, Clara, dans votre journal hier, le nombre de personnes concernées par des états dépressifs a doublé entre fin septembre et début novembre. Le reconfinement semble avoir un effet cumulatif. Une étude de la Fondation Jean Jaurès intitulée « Suicide, l'autre vague à venir du coronavirus » et citée par Marianne souligne la montée des idées suicidaires. 20% des personnes interrogées ont envisagé sérieusement de se donner la mort. Parmi elles, 11% ont songé durant le premier confinement et 17% depuis sa fin. Certaines catégories socioprofessionnelles sont plus touchées que d'autres, les dirigeants d'entreprises, 27%, les chômeurs dans la même proportion et les artisans commerçants, 25%. L'hebdomadaire Le 1 est consacré cette semaine à cette question. Oriane Raffin évoque une France sur les nerfs. Parmi les populations les plus touchées, les femmes, les personnes précaires et isolées, les plus fragiles d'un point de vue socio-économique, dont les étudiants. Elle cite une enquête du Centre national de ressources et de résilience. Un étudiant sur deux présente des symptômes sévères d'au moins un des critères mesurés, soit détresse, stress, idées suicidaires, anxiété, dépression. Marielle Vatelet, médecin en santé publique et co-autrice de l'enquête, précise plus de 27% présentaient une anxiété sévère et 11% confient avoir eu des pensées suicidaires. L'effet cumulatif est également relevé. Nombre de ces troubles avaient été peu ou pas pris en charge au printemps, alors que de nombreuses structures psychiatriques avaient fermé ou limité l'accueil. Déjà sous tension avant la crise sanitaire, les services de psychiatrie craignent aujourd'hui d'avoir du mal à contenir la vague. Christophe Debien, chargé du dispositif de prévention du suicide Vigilance, confirme une grosse différence entre les deux confinements. Je cite « En psychiatrie de catastrophe, plus la communication de crise est désorganisée, plus on constate des manifestations difficiles. Les différents discours, les revirements plus ou moins justifiés, en tout cas tels qu'ils sont perçus, peuvent donner le sentiment d'un manque de clarté. Les populations ont besoin de repères carrés. » Pour tout un chacun, les dimensions les plus pesantes de ce reconfinement sont, je cite, le manque de perspective à court ou moyen terme et la répétition qui entraîne une forme de lassitude. Rosine Duhamel, psychologue clinicienne au service d'écoute de la Croix-Rouge, constate une évolution des appels. On sent davantage de colère dirigée de façon différente contre le gouvernement, contre les personnes qui ne respectent pas les règles, contre les multinationales qui font du profit au détriment des petits commerces. Cette colère n'est pas forcément négative. Elle permet de tenter de raisonner, de trouver des solutions, des coupables aussi. C'est une manière de donner du sens à ce que l'on vit. À sa manière finement ironique, Robert Solé évoque un cauchemar sans fin. Ce maudit virus s'ingénue à nous tromper avec des expressions à dormir debout, asymptomatiques. Autant dire qu'on ne peut faire confiance à personne. Les porteurs sains sont aussi déroutants que l'obscure clarté ou la douce violence. Et que dire de cette formule du ministre de la Santé ? Les cas contacts des cas contacts ne sont pas des cas contacts. Ou comment être et ne pas être à la fois. Barbara Stiegler mène une grève à l'envers à l'Université de Bordeaux où elle est responsable du master Soins éthiques et santé. Contre le confinement des étudiants et leur assignation à domicile, elle se rend tous les jours à la fac pour les voir. Dans les inrecuptibles, elle s'insurge contre les injonctions contradictoires du gouvernement qui conduisent, selon elle, au sacrifice d'une génération entière. Je cite « Une fois les campus vidés, il n'y aura plus de processus de politisation, pourtant essentiel pour transformer les colères de la jeunesse en politique et pour faire entrer les étudiants dans la cité, surtout à l'heure où se constituent des bulles tribales sur les réseaux sociaux qui sont aussi délétères pour la sécurité et la santé mentale que pour la démocratie. » La philosophe estime que sans ces moments de rencontre, d'échange et de transmission des connaissances, le risque est grand de produire un délitement généralisé de la société. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à toutes et à tous.
Au programme aujourd'hui, l'Union européenne avec le blocage du plan de relance par la Hongrie et la Pologne.
Oui, c'était une menace et c'est devenu une réalité. Varsovie et Budapest ont bloqué le plan de relance européen ce lundi en mettant leur veto à l'adoption du cadre financier pluriannuel de l'UE pour la période 2021-2027, ce qui représente un budget de plus de 1000 milliards d'euros, ainsi qu'au fonds de relance de 750 milliards, cet accord qui avait été arraché dans la douleur au mois de juillet entre les 27 avec l'opposition des pays dits frugaux. Ces pays du nord de l'Europe, notamment les Pays-Bas, qui avaient exigé que le versement des fonds soit conditionné au respect de l'état de droit. Et c'est précisément cette clause que Varsovie et Budapest refusent, ce qui explique le blocage actuel. Voilà qui ramène l'Union européenne à une bataille politique majeure de ces dernières années. Bonjour Jacques Rupnik.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CERI Sciences Po, vous êtes historien et politologue et vous travaillez sur l'Europe centrale et orientale. Alors donc les différends autour de l'état de droit sont nombreux depuis des années entre Varsovie, Budapest et le reste de l'Union européenne. Mais là il y va de l'intérêt de ces deux pays, la Pologne et la Hongrie. Que se passe-t-il? Est-ce qu'elles peuvent aller plus loin que ce blocage qui serait peut-être un blocage de principe ou un geste politique?
Alors c'est certainement un geste politique, c'est un geste de souverainisme, d'affirmation de leur souveraineté, c'est ainsi qu'ils le présentent, et ils le font dans un contexte qui, en apparence, paraît contradictoire ou paradoxal, puisque la Pologne en particulier est censée être un des grands bénéficiaire de ce fonds de relance. Donc il y a d'un côté l'intérêt économique qu'ont les pays d'Europe centrale à l'adoption de ce projet de relance, et en même temps cette affirmation de leur souveraineté, parce qu'ils considèrent que la procédure ou les procédures qui sont engagées et qui concernent l'état de droit, cette conditionnalité ne figure pas dans les traités, et ils voient là une menace à plus long terme pour les régimes autoritaires ou illibéraux, comme ils se disent eux-mêmes, qui se sont développés au cours des dernières années.
Alors Jacques Rupnik, il ne s'agit évidemment pas de faire de la politique fiction, mais comment pourrait se débloquer cette situation? On parle d'une conditionnalité du versement des aides au respect de l'état de droit. Est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être plusieurs exceptions de cet état de droit? Est-ce que c'est par là que pourraient se jouer les choses?
Oui, parce que la façon dont s'est développé le débat au moment, disons, où le plan de relance a été adopté, c'est-à-dire au début de l'été, il y avait les pays nordiques, les frugaux, comme on les a appelés, qui souhaitaient un plan plus restreint, moins d'endettement, mais beaucoup plus exigeant sur le respect de l'état de droit. Et ça concernait particulièrement les pays d'Europe centrale, Pologne, Hongrie. Il y avait d'autre part ceux qui tenaient absolument à l'adoption de ce plan franco-allemand au départ, pour des raisons économiques, à cause de l'impact du Covid, et donc qui était un peu moins regardant sur la façon dont la conditionnalité pourrait être introduite dans ce projet. Les pays d'Europe centrale ont finalement accepté ce plan de relance, à condition que, justement, on adopte cette version minimaliste. Et on croyait, au début de l'été, que c'est cette version qui avait prévalu. Or, il se trouve que, et version minimaliste, ça voulait dire, en gros, on fait attention à ce que les fonds européens soient dépensés de façon non corrompue, disons qu'ils ne soient pas détournés de leur objectif initial. Et donc ça, c'est légitime de demander à ce que, effectivement, voilà, dans le cadre de la lutte anticorruption, l'État de droit fasse son travail. Mais c'était une version très restreinte, car la question de l'État de droit, ça concerne la séparation des pouvoirs, ça concerne l'indépendance de la justice, ça concerne aussi l'indépendance des médias ou des choses comme ça. Et donc là, les régimes en question se sentait vulnérable.
Alors, on pensait que
le compromis avait été trouvé. Or là, depuis la rentrée, surtout sous l'impulsion du Parlement européen, puis c'est revenu au Conseil européen, une version plus exigeante du respect de l'état de droit a été introduite, et c'est là où la Pologne et la Hongrie se sont braqués, et il y a ce bras de fer qui est introduit, et on attend que la présidence allemande en quelque sorte trouve un compromis
avant la fin de cette année, justement, 2020.
Ça va se jouer.
Alors, Jacques Rubnik, j'aimerais revenir sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure. Ce mot, c'est la question de la souveraineté ou du souverainisme. Donc, avec cette espèce de glissement, hein, on comprend que pour Varsovie et Budapest, en s'abritant derrière cette notion, on peut essayer de défendre une acception de l'état de droit qui serait tout à fait minimaliste, comme vous le disiez il y a quelques instants. Pourtant, cette notion de l'état de droit, elle est quand même contenue dans les traités européens que ces pays ont signés. Mais on constate quand même qu'il y a une difficulté aussi des États européens pour s'accorder sur une définition européenne commune. Concrètement aujourd'hui, comment on s'accorde sur ce que c'est qu'une définition européenne de l'état de droit dans l'Union ?
Écoutez, il y a les principes de base sur lesquels s'est construite l'Union européenne, qui est, des pays qui non seulement ont des régimes démocratiques, mais qui aussi ont un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a une séparation des pouvoirs, qu'il y a l'indépendance de la justice, qu'il y a des cours constitutionnels qui arbitrent en cas de litige, etc. Pourquoi c'est important ? Parce que tout l'édifice européen repose là-dessus.
Mais par exemple, Jacques Rubnik, sur cette question de l'indépendance de la justice,
vous avez un différend dans tel ou tel pays, vous comptez sur la possibilité d'avoir un arbitrage équitable.
Alors Jacques
Rubnik, si que la justice indépendante n'existe plus dans tel ou tel pays, vous avez sapé les fondements même de l'Union. Donc
justement, Jacques Rubnik, je sais pas si vous m'entendez bien. Alors donc cette question de l'indépendance de la justice, peut-être qu'un juriste tatillon à Varsovie ou à Budapest pourrait expliquer que en France par exemple, avec la hiérarchisation, le fonctionnement du parquet qui dépend du ministère de la Justice, on peut aussi faire remarquer que la justice prise comme un tout, comme une globalité, n'est pas tout à fait intégralement indépendante. Et dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas non plus. Vous voyez ce que je veux dire sur ces points de détail, comment faire en sorte que la définition de l'état de droit soit vraiment satisfaisante et qu'il puisse bien y avoir une correspondance entre la théorie et la pratique?
C'est la grande difficulté, parce que visiblement c'est ce que font remarquer d'ailleurs les pays en question. Ils disent mais chacun interprète cette notion de l'état de droit comme il veut. Aux États-Unis il y a les cours suprêmes, nous avons des cours constitutionnels. En France il y a un conseil constitutionnel dont la nomination est beaucoup plus politique qu'ailleurs. Bref, chacun fait comme il veut. Et j'ai entendu hier la ministre de la Justice hongroise, Madame Judith Varga, faire un long développement là-dessus à la BBC pour expliquer que l'affaire de l'état de droit, c'est de l'affaire de chaque État membre de l'Union européenne. Donc elle récusait toute ingérence de la part de Bruxelles, de l'Union européenne sur ces questions-là, et elle comparait même dans son développement ces intrusions de Bruxelles à l'Union soviétique, au régime soviétique. Alors quand on arrive, n'est-ce pas, à ce stade de divergence, parce qu'on peut avoir des évaluations différentes sur ce qu'est l'état de droit, mais enfin, en gros, tout le monde comprend que ça veut dire le constitutionnalisme. Il y a une constitution, il y a des instances qui arbitrent en cas de litige, et il y a la séparation des pouvoirs. Or, là, l'indépendance de la justice en Pologne, elle est malmenée depuis quelque temps, en Hongrie depuis encore plus longtemps, et l'indépendance des médias aussi. Je ne rentre pas dans d'autres aspects, par exemple, toute la législation sur les ONG. Bref, il y a un problème démocratique, mais vous avez raison de dire que ils peuvent invoquer la grande variété des situations au sein de l'Union européenne, et je crois que ils espèrent, alors ça c'est pour quand on cherche une issue, que la présidence allemande, qui jusque maintenant de l'Union européenne, parce que pour ça, jusqu'à la fin de l'année, c'est l'Allemagne qui préside l'Union européenne, qui pour l'instant n'a pas eu de résultat, ne peut pas se permettre d'avoir un échec sur cette question qui intéresse tous les Européens, et en particulier les pays du Sud. Les pays qui sont peut-être les moins regardants sur ces questions de l'état de droit, c'est les pays du Sud, parce que pour eux, le plan de relance, c'est absolument essentiel. Et donc le calcul de Orban et Kaczynski, c'est de dire, ils auront besoin du plan de toute façon. C'est un projet franco-allemand, ils ne peuvent pas échouer là-dessus. Et donc, nous allons revenir à cette version minimaliste de l'état de droit. On leur promettra que, effectivement, on fera attention à ce que, disons, des normes très très scrupuleuses soient observées dans l'usage des fonds qui seront attribués. Mais nous n'accepterons pas le principe d'une ingérence européenne dans la façon dont la justice, par exemple, est organisée dans notre pays. C'est un bras de fer important qui, si les Européens reculent, laissera des traces. Ça serait une conséquence très grave pour la suite.
On suivra en tout cas ce dossier ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci beaucoup Jacques Rupnik. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CERI Sciences Po, et je cite l'un de vos ouvrages, Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages. C'était publié aux presses de Sciences Po en 2014.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Confiné avec Simone de Beauvoir.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
La femme mariée est-elle devenue libre? Comment Simone de Beauvoir a-t-elle influencé le travail de ses amis philosophes et réciproquement? Y a-t-il un destin biologique du corps féminin? Et enfin, de l'amour nécessaire pour Sartre aux multiples amours contingentes, comment concilier travail intellectuel et passion du cœur?
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57, c'est l'heure de vous retrouver. Guillaume Herner,
oui,
bonjour.
Antoine Dulster, bonjour à toutes et à tous.
Alors, vous vous êtes rapproché des autorités pour votre humeur du jour.
Eh ben non, parce que finalement, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a changé d'avis, ou bien rétro-pédalé, je vous résume la séquence. Lors de la manifestation contre le projet de loi de sécurité globale, un journaliste s'est fait interpeller par la police. Les forces de l'ordre lui ont fermement suggéré de s'en aller, d'arrêter son travail, donc s'il ne voulait pas finir en garde à vue. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'Intérieur a expliqué que les journalistes couvrant des manifestations devaient, je le cite, se rapprocher des autorités pour se signaler, pour être protégés également par les forces de l'ordre, pour pouvoir être distingués, rendre compte de leur travail de journaliste dans ces manifestations. Alors à peu près chaque mot dans cette déclaration du ministre de l'Intérieur marque une rupture absolue avec toutes les pratiques journalistiques en vigueur dans notre pays, contrairement à ce qui peut se passer ailleurs. Hein. Vous choisirez Antoine à Cuba, en Hongrie, enfin bref, la destination de vos rêves. Jamais un journaliste ici en France ne se signale aux autorités dans une manifestation, ou alors, je sais pas, on a oublié de le faire. Il n'a pas à être protégé par les forces de l'ordre. Il rend compte de son travail éventuellement à son rédacteur en chef, mais jamais aux autorités. Je pourrais ironiser plus en avant sur cette déclaration si le ministre de l'Intérieur ne s'était pas finalement rétracté un peu plus tard, expliquant que l'accréditation des journalistes auprès des autorités dans les manifestations n'était pas obligatoire. Une vraie bonne nouvelle, notre profession pourra donc rendre compte des manifestations se déroulant sur la voie publique sans être embedded, vous savez, comme on dit, autrement dit, sans utiliser les mêmes techniques que celles qui prévalent lorsqu'on veut par exemple couvrir un conflit avec les forces gouvernementales en Syrie ou en Irak. Alors évidemment, tout le monde, y compris le ministre de l'Intérieur, a le droit de se tromper. Je me demande toutefois où il a pu trouver une telle représentation du métier de journaliste en dehors de quelques pays où les libertés fondamentales sont menacées. Car c'est bien ça le problème lorsque l'on considère que la démocratie ne tourne pas rond par excès de démocratie ou bien qu'une liberté, par exemple celle des journalistes, nuit aux autres libertés des médias qui se rapprochent des autorités. C'est la meilleure façon de façonner une société autoritaire.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et puis tiens, aujourd'hui justement on parlera de médias avec Vincent Giray, qui est directeur de France Info et cofondateur de Médias en scène, qui a lieu aujourd'hui même. Et puis nous serons également avec la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa. Il est 7h sur France Culture.